Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous raconter de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal suivi du commentaire, la revue de presse, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, nous vous présentons le rappel de titres de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Les amis, que de maintenant le bulletin d'information. L'Organisation de la coopération islamique OCI, dans un communiqué reçu par la Voix d'Indonésie, le service mondial de la Radio République Indonésia, a condamné les attentats à la bombe et des fusillades dans la zone de Sarinah, Jakarta, jeudi, le 14 janvier 2016, qui a tué au moins 7 personnes et blessé plus de personnes. Le secrétaire général de l'OCI, Iyad Matni Amin, a présenté ses condoléances aux familles des victimes décédées et a souhaité que les blessés puissent récupérer rapidement. Iyad Matni Amin a également condamné les actes odieux des terroristes contre la communauté pacifique de Jakarta. Il croit également que le gouvernement indonésien peut résoudre, arrêter et poursuivre les auteurs et ces actes de terreur. Il a confirmé à nouveau le principe de l'OCI qui condamne et rejette tous les actes de terrorisme et l'extrémisme et toutes les formes de violence et ses manifestations au nom de la justification d'une lutte. L'armée nationale indonésienne TNI s'opéra les avions sans pilote ou des drones pour surveiller les zones frontalières de Nunukan, le nord de Kalimantan. Bien que le temps d'opération ne soit pas encore décidé, mais TNI a achevé la construction des deux bases de drones. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de TNI Mulyono, lors d'une visite à la zone frontalière récemment citée par Republika, a déclaré que les deux bases de drones étaient situées à Aji Kuning, l'île de Sebatik, et à Semenggaris, en raison de Nunukan. En plus d'observer la base de drones à Aji Kuning, l'île de Sebatik, le général TNI Mulyono a également fait des visites à plusieurs points de contrôle du groupe de travail de la sécurité de la région frontalière Indonésie-Malaisie. Selon Mulyono, l'existence des postes de garde des zones frontalières devrait être observée. L'Indonésie a rejeté l'aide des pays amis pour faire face au terrorisme. Le gouvernement indonésien a refusé l'assistance ouverte par les autres pays amis dans la lutte contre le problème du terrorisme après l'explosion et le tir à l'intersection de rue MH Tamrin jeudi 14 janvier après-midi à Jakarta. C'est ce qu'a déclaré le ministre coordinateur de la politique juridique et de sécurité, Luhut Binsar Panjaitan, vendredi soir à Jakarta. Il a expliqué que certains pays qui ont offert l'assistance étaient y compris les États-Unis, l'Australie, Singapour et la Malaisie. L'ancien chef d'état-major de la présidence a déclaré que ce pays ont offert l'assistance technique. Un jour après l'explosion des bombes et les coups de feu au poste de police de la rue MH Tamrin, détachement 88 antiterreur a arrêté plusieurs personnes soupçonnées de terrorisme dans les différentes régions en Indonésie. La police a arrêté des soupçonnés à Bekasi, Tegal, centre de Java, Cirebon et Depok, Java West et Balikpapan. La police a également renforcé la sécurité dans plusieurs aéroports et de mener des raids à divers postes frontaliers. Le ministre indonésien des Affaires religieuses, Lukman Hakim Saifuddin, a déclaré à Medan vendredi que l'Indonésie est un pays avec la plus grande population musulmane dans le monde et devenu un modèle à maintenir l'harmonie religieuse dans le niveau international. La communauté internationale reconnaît que l'Indonésie est un pays avec la plus grande population musulmane dans le monde. Et ce pays réussit de maintenir l'harmonie bien qu'il y ait d'autres religions dans le pays. L'islam en Indonésie respecte la culture, les droits de l'homme et de l'égalité des genres. Le gouvernement de l'Indonésie a promu des sites touristiques dans le plus grand salon de tourisme à Ferryamäss en Autriche, dans un effort d'attirer les touristes européens, en particulier l'Autriche, à se rendre en Indonésie, malgré l'Indonésie fait face à une attaque terroriste. Le ministre conseiller de l'ambassade d'Indonésie à Vienne, Dodi Sambodo Kusumonegoro, comme cité d'Antara vendredi, a dit que l'Indonésie n'était pas affectée par la menace terroriste. Il a expliqué le stand indonésien dans l'exposition qui a réuni 780 participants de 70 pays à eux pour thème le tourisme maritime en présentant 5 tours opérateurs, dont 3 provenaient de l'Indonésie, tels que l'agence de voyage Nusa Dua Bali, l'agence de voyage Yuk et Aventure Kartens, le stand indonésien de l'exposition qui durait 4 jours jusqu'au dimanche le 17 janvier 2016 présente également des produits typiques de l'Indonésie, comme des nouilles qui peuvent être directement consommées par les visiteurs du stand indonésien. Il est souhaitable que la promotion du tourisme puisse augmenter le nombre de visites de touristes de l'Autriche à l'Indonésie, comme des efforts du gouvernement indonésien pour faire venir 20 millions de touristes étrangers en Indonésie en 2019. Vous êtes toujours à l'écoute de la voix d'Indonésie à Jakarta. L'économiste en chef de la Banque nationale de l'Indonésie, BNI, Rian Kirianto, a dit que le bonus démographique qui était marqué par le nombre élevé de la population en âge productif pourrait bénéficier l'économie de l'Indonésie. On estime que le bonus démographique peut être apprécié par l'Indonésie en 2020 jusqu'à 2030. À cette époque, le nombre de l'âge productif de 15 ans jusqu'à 74 ans atteindra environ 70%, tandis que 30% sont les populations non productives, moins de 14 ans et l'âge plus de 65 ans. En outre, l'Indonésie a également bénéficié de l'expérience du pays qui a plusieurs fois face à la crise économique et a réussi à résoudre les problèmes. Tout cela a été considéré comme une bonne perspective dans les années à venir et de soutenir le plan à long terme du président indonésien Joko Widodo. Les objectifs de Joko Widodo 2015 jusqu'en 2028 et l'Indonésie sera le baromètre de l'économie mondiale, le centre de l'éducation, de la technologie et de la civilisation dans le monde. Ces auditeurs, c'était notre journal pour aujourd'hui. À demain.
Chers auditeurs, nous vous présentons maintenant la mise au point intitulée « Le président Joko Widodo a lancé le premier village de planning familial à Cirebon ». Une zone résidentielle des pêcheurs dans le village Mertasinga, le sous-district Gunung Jati Cirebon, a été inauguré jeudi par le président Joko Widodo comme premier village de planning familial à l'échelle nationale. Le village de planning familial est un programme gouvernemental qui a débuté cette année en ciblant les quartiers pauvres. Les programmes de planning familial comprennent le contrôle de la naissance de deux enfants, le programme de sécurité de la famille et le programme de la prospérité de famille. Le but est d'éduquer les gens pour qu'ils soient plus prospères à l'avenir. Ils ont été éduqués à vivre en bonne santé et à faire les activités économiques qui soutiennent leur bien-être. Le lancement de Villa Smerta Singa comme Villa de planning familial est destiné aux gens dans les quartiers pauvres pour effectuer les programmes de planning familial pour le bien-être du peuple. Dans son discours, le président Jokowi a exprimé son désir de créer un pays fort et prospère à travers l'amélioration de la qualité de famille dans le pays. Par conséquent, le planning familial est considéré comme nécessaire pour gagner la concurrence mondiale. Le président a souligné un nombre limité d'enfants, dans ce cas deux, est devenu l'un des points de la création de la famille qualifiée. Le président a assuré « Moins d'enfants permettra aux gens de donner plus d'attention et de l'éducation. » La famille qualifiée, a-t-il dit, est créée à partir de la réponse aux besoins de chacun de ses membres de manière adéquate. Pendant ce temps, le ministre indonésien de coordination pour le développement humain et la culture, Puan Maharani, qui a accompagné le président, a dit « Le programme de village de planning familial est commencé au village de Merta Singa. Dans l'avenir, le gouvernement va chercher d'autres endroits avec des familles pauvres dont les moyens d'existence ne sont pas fixes, avec beaucoup d'enfants dans toutes les régions en Indonésie. » Au même endroit, le chef de l'Agence de coordination du planning familial, BKKBN, Surya Chandra Surapati, a affirmé que Cirebon a été choisi comme première zone compte tenu l'ouest de Java et la province la plus peuplée en Indonésie. Le mariage précoce devient l'un des cas qui se produit encore, en particulier dans l'ouest de Java. Chers auditeurs, c'était la mise au point.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici une histoire d'aujourd'hui de l'édition du 16 janvier 2016. On va commencer le 16 janvier 1909. L'expédition dirigée par Ernest Shackleton a trouvé le pôle sud magnétique. La Grande-Bretagne a envoyé l'expédition antarctique nationale de 1901 jusqu'à 1904 dirigée par Robert Falcon Scott. Ernest Shackleton, un membre de l'équipe de l'expédition Scott, a dirigé Imperial British Antarctic Expedition de 1907 à 1909 pour devenir le premier à atteindre le pôle sud. Cette expédition a réussi à trouver le pôle sud magnétique le 16 janvier 1909. La découverte du pôle sud magnétique provoque la compétition pour atteindre le pôle sud de plus en plus intense. On va continuer le 16 janvier 1950, la Belgique et les Pays-Bas et le Luxembourg reconnaissent la souveraineté d'Israël. 1947, les Nations Unies a approuvé la division de la Palestine en deux États, tels que les États juifs ou Israël et le pays arabe Palestine. Le 14 mai 1948, Israël a proclamé son indépendance et a été rapidement suivi par la guerre avec le pays arabe environnant qui refusait le plan de division. L'Israël a gagné la guerre et confirmé son indépendance depuis le début de la création de l'État Israël. La frontière de l'État d'Israël et le droit d'Israël a été contestée par de nombreuses parties, en particulier le pays arabe et les réfugiés palestiniens. Les États-Unis sont le premier pays à reconnaître la création d'Israël, suivi par l'Union soviétique en 1949. La Turquie a reconnu la souveraineté d'Israël. Le 16 janvier 1950, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont reconnu la souveraineté d'Israël. Jusqu'à présent, il y a encore des pays qui ne reconnaissent pas encore la souveraineté d'Israël, y compris l'Indonésie. On va continuer le 16 janvier 1947. Vincent Auriol est élu le président de la France. Vincent Auriol a été élu président de la France le 16 janvier 1947 et a servi jusqu'en 1954. Auriol était un membre du Parti socialiste en France et établit un journal socialiste en 1908. Il a commencé à se présenter aux élections en 1914. Un an plus tard, il a été élu maire de Toulouse. Sa carrière a augmenté après être élu le ministre français des Finances. L'un des règlements célèbres est la dévaluation du franc de 30% contre le dollar américain au mois de septembre 1936, qui a provoqué les incertitudes économiques en France. Vincent Auriol est mort en 1966. On termine le 16 janvier 1979, le Shah d'Iran s'exile. Dans la matinée, le Shah d'Iran Mohammad Reza Pahlavi et sa femme, la reine Farah, quittent le pays pour Assouan en Égypte où le président Sadat les attend. Ce départ officiellement pour des vacances est en réalité définitif. La révolution populaire menée en même temps par les libéraux, la gauche, l'armée et le mollah qui agite l'Iran depuis janvier 1978 a poussé le souverain hors de son royaume. Le 1er février, le chef spirituel de la communauté chiite, exilé depuis 15 ans, l'ayatollah Khomeini fera un retour triomphal à Téhéran. Le 1er avril, il instaurera une république islamique d'Iran et exercera jusqu'en 1988 une des plus féroces dictatures religieuses du XXe siècle. Ces amis, c'était notre l'histoire d'aujourd'hui de la Voix d'Indonésie, de l'édition 16 janvier. Et au revoir.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, divers événements importants qui se sont passés pendant cette semaine sont résumés dans la revue de presse compilée à partir de divers quotidiens publiés à Jakarta. Nous commençons par le quotidien Kompas. Ce quotidien a écrit dans un éditorial vendredi, le 15 janvier. La terreur et maintenir la vigilance. Les actes de terreur à Jakarta qui ont ruiné l'atmosphère sécuritaire au début de l'an 2016 a signalé que le danger du terrorisme reste une menace sérieuse. Divers milieux ont apprécié les forces de sécurité qui ont agi rapidement pour surmonter les terroristes qui ont ouvert le feu et lancé des grenades et des bombes, y compris avec la méthode de suicide. L'identité du cerveau et des auteurs des attaques devrait être révélée clairement pour éviter la spéculation. Les terroristes avaient échangé des tirs avec des policiers dans la région de Tamrin. L'attaque de jeudi n'a pas seulement causé de victimes directes. 7 personnes auraient été tuées, y compris 5 terroristes, mais aussi à créer une atmosphère d'horreur et de peur qui est le principal objectif de la terreur. Il est exact l'insistance du président, du vice-président et des forces de sécurité pour que les gens ne soient pas peur et panique. Les terroristes seront plus audacieux et agressifs si le public est peur et panique. Selon Compass, l'attaque des terroristes est toujours soudaine et a tendance à ne pas choisir des cibles. Pour cette raison, l'anticipation et la vigilance sont nécessitées de temps en temps. Pendant ce temps, le quotidien Republica, dans un éditorial vendredi le 15 janvier, a écrit « Ne pas perdre et ne pas avoir peur ». Certaines personnes ont essayé de répandre la terreur dans la capitale. Cependant, leurs tentatives pour rendre les gens peur ont échoué. Dans environ 4 heures, les forces de sécurité ont apporté avec succès la situation à la normale. Les Indonésiens ont déclaré qu'ils ne sont pas peur et ne sont pas en reste par tous les actes de terrorisme. Un total de 7 personnes ont été tuées et 19 autres blessées dans une attaque sanglante jeudi, le 14 janvier matin. Les Indonésiens ne veulent pas perdre avec les actes de terrorisme. Un total de 7 personnes ont été tuées et 19 autres blessées dans une attaque sanglante jeudi matin. La police a déclaré que 5 des morts étaient prétendument les auteurs. En dehors de la région Sarina, la situation à Jakarta est relativement normale. Le marché des capitaux a été un peu affecté. Le taux de change de rupiah et l'index des prix d'action composite ont affaibli. Cependant, le gouvernement croit que cela est seulement provisoire. Le président Jokowi a demandé au public de rester calme pour faire face à la terreur. Le président a exhorté les gens à ne pas avoir peur. L'État ne doit pas perdre à la terreur. La même chose a été affirmée par le vice-président Yusuf Kalla et d'autres figures nationales. Toutes les parties ont condamné et rejeté toutes les formes de violence, notamment le terrorisme. Le quotidien Republica espère que les autorités peuvent enquêter cette affaire. Ce quotidien a également appelé les gens à faire face à la terreur ensemble. Le quotidien a également déclaré que les Indonésiens ne perdront pas et n'auront jamais peur. Chers auditeurs, nous finissons la revue de presse avec le quotidien Media Indonesia, qui a écrit dans son éditorial sur « Ne jamais reculer dans les enquêtes de Novanto ». L'une des crises qui dérange toujours la nation est la crise des actions exemplaires des dirigeants et des élites du pays. Une telle action ne peut pas être vue dans une petite partie des problèmes des élites qui est dernièrement souvent arrivée dans le pays. L'absence de l'ancien président du Parlement, Setia Novanto, de la convocation du procureur général liée au cas prétendu à la demande des actions de PT Freeport Indonésie mercredi. Présent à nouveau la preuve que ces actions exemplaires ont en fait presque disparu. Le procureur en fait a convoqué Novanto de déterrer les informations comme considération ce que dans cette affaire, il y a des éléments de corruption ou non. Selon Media Indonesia, les mesures prises par le procureur général d'examiner l'ancien président du Parlement ne reculera pas parce que cela concerne la confiance du peuple. Jusqu'à présent, la confiance du public prend parti pour le bureau du procureur général avec le montant de soutien à cette institution. Cette confiance ne devrait pas changer parce que le procureur général perd l'élan et la lutte contre la finesse de Novanto. Cher Jomi, c'était la revue de presse pour ce soir.
santé, des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonjour et bonsoir chers auditeurs de la Voix d'Indonésie. Nous vous racontons dans le programme quotidien le magazine culturel. Cette fois, on va visiter la ville Purwakarta dans la province de Java West pour regarder la beauté de la fontaine Taman Sri Baduga. Et bonne écoute. Le district Purwakarta est un district de la province de Java West en Indonésie. La capitale se trouve à Purwakarta. Purwakarta est située au point des trois grands corridors de circulation de Réunion sont très stratégiques, à savoir Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung et Purwakarta-Cirebon. La régence de Purwakarta a une devise, Wibawa Kartara Harja, qui signifie Purwakarta comme la région autorité animer la vie ainsi que riche ou prospère. Ces auditeurs, pour attirer les touristes à Purwakarta, le gouvernement provincial de Purwakarta a créé une fontaine s'appelle Taman Sri Baduga. La fontaine Taman Sri Baduga non seulement plus grande en Indonésie, mais aussi la plus grande en Asie du Sud-Est. Le développement de la fontaine Sri Baduga a été réalisé depuis 2013 jusqu'en 2015 et perfectionné, cela a été fait en 2016. Bien que la construction de la fontaine Sri Baduga récemment atteint 90%, mais l'intérêt public a été incroyable. Le samedi soir, le 9 janvier 2016, des milliers de citoyens de Purwakarta ont afflué à Taman Sri Baduga Maharaja, situé Belut, Purwakarta, l'ouest de Java, pour regarder au lancement de la plus grande fontaine en Asie du Sud-Est. Il y a même le mentionné comme le rival d'une fontaine Wing du Times à Singapour. Exactement à 22 heures, un tonnerre d'applaudissements en conjonction avec l'inauguration de la fontaine Sri Baduga par la régence de Purwakarta Dedi Mulyadi et à ce moment a également déclaré que la fontaine Sri Baduga ouverte au public. Pour regarder la fontaine de la danse est entièrement gratuit. La fontaine Sri Baduga Maharaja est une fontaine qui danse avec une variété d'animations grâce à aqua-écran. En outre, on a également montré aussi une fontaine en forme d'une flamme et une variété d'autres uniques. Un peu de l'eau de la pluie au milieu de celui-ci pourrait suivre le rythme de la musique. Une hauteur de swing de la fontaine également atteint 6 mètres. Un autre action était simultanément suivie la fontaine autour des parcs. Le parc était la mesure d'environ 2 hectares. La fontaine de danse est devenue plus majestueuse face que la rincage de l'éclat de lumière laser coloré venant de toutes les directions de la boussole. Selon le plan, le spectacle de la fontaine aura lieu chaque samedi soir, sera divisé en deux sessions. La première session a eu lieu, représentation débute à 19h30 jusqu'à 22h, la deuxième session à 22h à 24h30. La fontaine Sri Baduga est également ouverte le dimanche matin à partir de 5h jusqu'à 21h. Dans les endroits autour de la trajectoire circulaire du Sri Baduga, sera également préparé une place pour les acteurs économiques créatifs. Par exemple, la peintre typique pour Purwakarta, spectacle de marionnettes, de la céramique et d'autres métiers qui peuvent être achetés pour les visiteurs des souvenirs après avoir vu la fontaine dansante. La présence de la fontaine danse Sri Baduga de Fort de sorte que le nombre attendu de touristes séjournant dans les hôtels et la visite liée aux culinaires dans Purwakarta va augmenter. En particulier sur un week-end de vacances, parce que dans Purwakarta, vous pouvez profiter de fontaines dansantes Sri Baduga. Vous pouvez également profiter de la culinaire célèbre de la Purwakarta comme Sate Marangi et le gâteau Pétoncle qui est devenu la marque de quartier pour Wakarta. Chers auditeurs, c'était notre programme, le magazine culturel de la Voix d'Indonésie intitulé La fontaine de Sri Baduga pour Wakarta, la plus grande fontaine de l'Asie du Sud-Est. Bonne écoute et au revoir.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers amis. Voici le magazine de Warna-Warni ou couleurs indonésiennes, édition de samedi avec moi, Muhammad Suartono. Dans cette édition, nous vous inviterons à savoir la philosophie des arts martiaux d'origine d'Indonésie, Pencaksilat. Non seulement les arts martiaux, Pencaksilat a la philosophie dans chaque mouvement. Il faut rappeler bien que l'art martial Pencaksilat n'est pas pour détruire ou attaquer, mais uniquement pour se défendre. Pencaksilat est le patrimoine culturel de l'Indonésie qui se disperse à l'étranger. Bien que l'histoire ne puisse pas déterminer exactement quand la naissance de Pencaksilat, mais cet art martial est né depuis la civilisation humaine. Depuis la préhistoire et des années, un simple art martial pour défendre la vie de la force naturelle. L'art martial Pencaksilat est connu comme l'un des cultures indonésiennes d'origine de l'Indonésie qui est considéré résultat des cultes de la nation malaise. Pencaksilat a grandi dans l'archipel depuis le 7e siècle. Dans l'époque des royaumes, l'art martial était comme moyen de puissance ainsi que protéger le royaume et pour attaquer l'adversaire. En 1019 jusqu'à 1041, le terme de art martial a commencé avec le nom Ehokik. À l'époque coloniale, l'art martial ou Pencaksilat tient un grand rôle important en aidant la défense du pays pour repousser les envahisseurs. Cet art martial est largement connu en Indonésie, la Malaisie, Brunei Darussalam, à Singapour, le sud Philippines et le sud de la Thaïlande, conformément à la propagation de l'archipel Malais ou Melayu ethnique. Plus tard, Pencaksilat est considéré aussi comme l'un de l'identité de la nation indonésienne. Non seulement souligné sur la technique d'autodéfense, Pencaksilat montre aussi le sens de l'aspect philosophique et divers de la société, les valeurs morales, spirituel mouvement de l'art et les arts martiaux ainsi que le sport. Selon l'un des auteurs de Pencaksilat, Yayan Ruhiyat, chaque mouvement des arts martiaux a sa propre philosophie. L'attitude de Pencaksilat est rarement sans serrer position de la main, mais toujours à bras ouverts. Cela signifie que Pencaksilat n'est pas pour se battre ou attaquer, mais l'autodéfense. La substance est si nous apprenons en profondeur au point tout type de Pencaksilat, y compris les autres arts martiaux avérés, sont essentiellement une approche humaine au créateur. De plus, le Pencaksilat enseigne aussi également des procédures pour la socialisation chez les humains à la paix. En outre, Pencaksilat enseigne aussi la science de la spiritualité, que l'esprit humain et l'âme deviennent calmes. Chers amis, c'était l'information sur la philosophie de pentaxilat. Merci de votre fidélité et attention et à notre programme La couleur indonésienne, édition de samedi. Au revoir.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Pour cette édition, je vous présenterai des chansons pop chantées ce soir par Raisa. Chers amis, vous pouvez écouter aussi nos émissions sur la fréquence de 900-200 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions sur l'application sur RRI Play. Bon, on écoutera la première chanson intitulée Bye Bye, chantée par Raisa.
Been hiding for far too long. Hey girl, you know you're wonderful. If he doesn't appreciate ya, then it's time to say
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Bye Bye » chantée par Aïssa. Cette chanson était le premier single de son deuxième album « Heart to Heart » publié de juin, 12 juin 2013. Différent avec des chansons précédentes de Aïssa, la chanson « Bye Bye » a un sens « Unbeatable Fan Girl ». Aïssa a exprimé son opinion à travers cette chanson. Selon elle, les femmes ne doivent pas continuer à maintenir un conjoint qui n'a pas l'amour et apprécier lui. Il donne également des conseils si une relation est terminée, il est préférable de simplement dire bye-bye seulement. Chers auditeurs, voici la chanson intitulée « Personas principales ». Vous êtes toujours à l'écoute de la voix d'Anonissi Diffusi à Jakarta. C'était une chanson intitulée « Persona principale » chantée par Aïssa. La chanteuse Jolie de 25 ans a admis que la chanson a été créée par Kamga. Kamga est la chanteur du groupe de musique Tanga. Selon Aïssa, une chanson qui est écrite par Kamga a ses propres caractéristiques. Il y a beaucoup de figures de style dans les paroles rares à vente. Par ailleurs, en termes de musique, notation et arrangements est estimé plus sévère que les chansons précédentes. Elle a également expliqué que la chanson raconte l'histoire d'une femme qui a réalisé qu'il perdait la personnage principale dans son cœur. Ses amis, avant nous terminons notre programme musical ce soir, on écoute deux chansons intitulées LDR et Puzzle, Santé par Raisa. Bonne écoute et au revoir.
Putuskan cintaku dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta mau dikatakan apa lagi kita tak satu, engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Andai ku bisa, ingin aku memelukmu.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
The honey, I just wanna be with you. flowers, just your hours. Baby, you have bloomed in my heart. So many have tried to, but only you do make me feel like this, yes, you. Baby, we could be together and nothing but your love forever. Cause which way you're near me, there is no emptiness. It's special love and I can feel it deep in my soul. I see you've given me much more. Thank you for the greatest gift of all. Just the way that you
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada. Tak mampu, seribu salah di kosong hati.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.